problème. Aussi se fortifie-t-il l'un par l'autre, une religion sociale tend à être une religion positive. La religion de ces premiers colons ne fut à aucun degré théologique, il parle de l'américanisme, leur profession de foi n'imposait pas de dogme et leur notion de surnaturel se réduisait à peu de choses, leur libéralisme était fait d'indifférentisme métaphysique. On arrête de s'occuper de Dieu et de vouloir que Dieu soit le centre de tout. On transforme Dieu, centre de tout, en l'homme, centre de tout. C'est exactement la religion de Bergoglio. Alors, j'aime bien la conclusion dans ce passage de l'abbé Barbier. Il dit, c'est très vrai, la religion du catholicisme libéral, la religion américaniste, puisque c'est la même, n'enseigne plus à mourir, mais à vivre. Elle est une école d'énergie pratique. Je me rappelle à ce sujet un point de l'histoire que j'ai déjà souvent cité en sermon, mais je vous le recite ici parce que ça me vient à l'idée, c'est exactement ce qu'explique l'abbé Barbier. Et c'est dans la vie de Melanchthon. Melanchthon était un disciple de Luther. Sa mère était catholique. Elle était très âgée. Elle était un peu perdue, évidemment, la pauvre dame, en voyant son fils raconter toutes ses balivernes. C'était un des fondateurs du protestantisme avec Luther. Alors elle lui disait, mais de toutes ces deux religions qui sont en présence aujourd'hui, la catholique et la protestante, laquelle est la meilleure? Et Melanchthon a répondu, pour vivre, la meilleure c'est la protestante. Mais pour mourir, la meilleure c'est la catholique. C'est exactement ça. Donc, la religion, si vous voulez, la religion du catholique libéral se soucie de moins en moins de sauver les âmes, les individus, et de plus en plus de sauver la société. Au lieu du paradis, elle offre en récompense le perfectionnement social. Le christianisme devient une mutualité et se réduit à une fraternité. Elle ne veut que la paix religieuse, la paix entre religion et science, avec une morale indépendante du dogme, ne mêlant jamais les questions surnaturelles aux questions sociales. C'est une religion de l'humanité greffée sur le christianisme. Une très belle synthèse de l'abbé Barbier. Donc, en gros, le catholicisme libéral ne veut plus de l'influence de l'Église dans l'âme même de la société. On tolère l'influence de l'Église en matière privée seulement, mais jamais en matière publique. C'est pour cela que les catholiques libéraux de la fin du 19e et du début du 20e siècle vont logiquement en arriver à accepter le laïcisme républicain dont on voit les effets dramatiques et néfastes d'aujourd'hui. Donc, si vous voulez, l'américanisme, qui n'est rien d'autre qu'un catholicisme libéral, c'est l'adaptation du catholicisme à la religion américaine. Alors là, il faut parler de l'influence absolument désastreuse du père Ecker, H-E-C-K-E-R, qui était fondateur des paulistes, qui a été converti en 1844, mais qui était un très charismatique, mais en même temps, hélas, complètement moderniste. Pour lui, on n'a pas besoin d'une direction extérieure, il suffit de l'influence directe du Saint-Esprit. Et ce sont ces idées charismatiques qui vont être condamnées par le pape Léon XIII, dans l'encyclique de condamnation de l'américanisme dont j'ai déjà parlé. Donc le système religieux de l'américanisme, c'est en premier lieu une religion démocratique, c'est la religion du libéralisme. Donc le système religieux du catholicisme libéral, c'est la religion démocratique et la religion du libéralisme. Donc on voit très bien une union étroite entre le catholicisme libéral et bien sûr le libéralisme, d'où son nom catholicisme libéral, mais aussi l'esprit démocratique. Supprimer l'esprit démocratique du catholicisme libéral, il n'y a plus de catholicisme libéral. Supprimer le libéralisme doctrinal du catholicisme libéral, et le catholicisme libéral s'écroule. Donc pour faire revenir un catholicisme libéral à la foi catholique, qu'est-ce qu'il faut? La foi catholique. L'enseignement du magistère catholique. Donc, qu'est-ce que voulaient ces catholiques libéraux, ces américanistes? Ils voulaient tout simplement préparer le monde au règne universel de la liberté humaine et des droits de l'homme. C'est pour cela que Mgr Ireland, c'est un texte que j'ai déjà cité, donc je n'y reviens pas, prétendait que l'américanisme et la démocratie chrétienne se sont reconnus comme des frères. Donc, dans l'esprit du catholicisme libéral, seule la démocratie est acceptable en matière politique. Or, de la démocratie, il n'y a pas de salut. C'est exactement ce qu'ils vont enseigner. Donc, ils ont voulu se développer, les américanistes, les catholiques libéraux, loin de la surveillance de Rome. Mgr Ireland avait comme expression « loin des chiens de garde ultramontains hein ». Alors, cet américanisme, donc surtout présent dans sous l'efficace juridiction, si vous voulez, de Mgr Ireland, Mgr England, Mgr Gibbons, va être combattu en France, parce que Mgr Ireland est venu à Paris pour prêcher ses idées à Paris, ça fait un dégât énorme, et cet américanisme va être combattu surtout par Mgr de Lassus et le journal de la vérité française et l'abbé Maignan, puis par l'encyclique Testem Benevolentiae de Léon XIII en 1899, qui est la condamnation de l'américanisme. Je n'y reviens pas parce que j'ai déjà cité en long, en large et en travers cette encyclique. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que si le pape Léon XIII a frappé dans son encyclique Testem Benevolentiae en 1899, a frappé l'américanisme, il ne l'a pas extirpé. Ses maximes et son esprit sont demeurés le fond des erreurs religieuses et sociales, dont l'encyclique Pascendi, la lettre de Saint-Pédis sur le Sillon elle-même, ont plutôt arrêté l'expression déclarée publique qu'elles les ont déracinées en beaucoup d'esprits. Malheureusement, encore une fois, ces idées se sont incrustées, enquistées, un peu comme des kystes, si vous voulez, qui, dans certaines périodes difficiles, se cachent en quelque sorte. La bactérie se cache, s'enkyste pour se protéger et attend des jours meilleurs. Hein? Alors, il y a ici un texte très intéressant de l'abbé Barbier. Voilà ce que dit l'abbé Barbier. Religion d'indifférence dogmatique. L'américanisme, le catholicisme libéral, donc, a favorisé une anarchie doctrinale qui a été s'aggravant pendant plusieurs années encore. Une religion de liberté individuelle, il se retrouve durant toute la période qui suit dans les manifestations qui portent atteinte à l'autorité dans l'Église et affaiblissent l'amour pour elle. C'est une religion de l'évolution en tout ordre. Il est au fond de toutes les variétés du modernisme, entretient son poison dans tous les esprits, religion de vie intérieure à la mode protestante. Il inspire le dédain pour les dévotions, l'honneur dans l'Église et pour les cérémonies du culte. C'est une religion des temps nouveaux, de la démocratie, qui soutient les audacieuses prétentions des réformateurs de la discipline ecclésiastique. Une religion du bien-être, qui devient celle des abbés démocrates et des nouveaux apôtres laïcs, qui apportent au peuple un évangile terrestre. Une religion de tolérance mutuelle et d'accord moral, qui demeure la pensée dirigeante d'efforts persévérants pour faire adopter le système de l'interconfessionnalisme dans les œuvres sociales, au prix du silence sur les affirmations catholiques d'une part et de l'autre, sur les opinions fausses ou scandaleuses avec lesquelles il ne saurait y avoir de compromission. C'est l'adaptation de l'Église au siècle pour introduire la démocratie dans le gouvernement de l'Église. Donc c'est ça le danger du catholicisme libéral, de démocratiser l'Église catholique. Démocratiser l'Église catholique, qu'est-ce que ça veut dire? Démocratiser l'Église catholique, ça veut tout simplement dire de donner le pouvoir au peuple, l'autorité ne venant plus d'en haut, de Dieu, mais l'autorité venant du peuple. De dire que l'autorité vient du peuple, ça veut dire en fait que l'autorité vient du nombre. C'est le nombre qui va faire la vérité. Alors, c'est très important à comprendre. Et c'est pour cela qu'il n'est pas possible de conserver la foi catholique en acceptant les principes démocratiques actuels. La démocratie, encore une fois, n'est pas le droit du peuple, le pouvoir du peuple, mais le pouvoir du nombre. Dès qu'on fait intervenir le nombre dans la doctrine, le nombre changeant tout le temps, la doctrine devient instable et va suivre les fluctuations du temps. À chaque temps, sa doctrine, à chaque période, sa vérité. Donc l'Église catholique ne devient plus le phare de la vérité, mais va s'adapter aux fonctions, aux situations nouvelles qui changent tout le temps en fonction des différentes circonstances. Alors, je vous recite certains textes que j'ai déjà cités en pratique, parce que ce sont des extraits de Léon XIII. Alors, je m'excuse encore une fois de me répéter, mais il est difficile, avec toutes ces notes que j'ai devant moi, de ne pas me répéter. Ça fait du bien, de toute façon, je pense, de revenir constamment au même principe. Donc, Léon XIII explique bien que le principe des opinions nouvelles dont nous venons de parler, dit-il, peut se formuler à peu près en ces termes. Pour amener plus facilement les dissidents à la vérité catholique, il faut que l'Église s'adapte davantage à la civilisation d'un monde parvenu à l'âge d'homme et que, se relâchant son ancienne rigueur, elle se montre favorable aux aspirations et aux théories des peuples modernes. Or, ce principe beaucoup retente non seulement à la discipline, mais encore aux doctrines qui constituent le dépôt de la foi. Donc, ce libéralisme mélangé au catholicisme va attaquer le dépôt même de la foi. Donc, ces gens vont soutenir qu'il est opportun, pour gagner le cœur des égarés, de taire certains points de doctrine, comme étant de moindre importance, ou les atténuer au point de ne plus leur laisser le sens auquel l'Église est toujours tenue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut constamment adapter la doctrine de l'Église aux gens à qui on parle. On le voit très bien, surtout c'est vu de façon très nette dans les grandes réunions avec les jeunes organisées par l'Église de Vatican II, dans ces conciles des jeunes, au lieu de profiter de l'influence qu'ils auraient pu avoir sur les âmes de ces jeunes qui les écoutaient, les papes de l'Église de Vatican II, au lieu de profiter de cette occasion de rappeler la doctrine catholique traditionnelle, vont se lancer dans un humanisme pour plaire aux jeunes. On voit très bien ça, c'est Bergoglio. Il ne cherche qu'une seule chose, à plaire au monde. Parce qu'il sait qu'à ce moment-là, il va ramasser, si vous voulez, de la part du monde, une charité naturelle qui ne sera que naturelle. Il n'est pas besoin de longs discours, dit le pape Léon XIII, pour montrer combien est condamnable la tendance de cette conception. Il ne faut pas croire non plus qu'il n'y ait aucune faute dans ce silence dont on veut couvrir certains principes de la doctrine catholique pour les envelopper dans l'obscurité et l'oubli. Car toutes ces vérités qui forment l'ensemble de la doctrine chrétienne n'ont qu'un seul auteur et docteur, qu'on se garde donc de rien retrancher dans la doctrine reçue de Dieu ou de rien omettre pour quelque motif que ce soit, car celui qui le ferait tendrait plutôt à séparer les catholiques de l'Église qu'à ramener à l'Église ceux qui en sont séparés. À cette opinion sur les vertus naturelles se rattache une autre opinion qui partage comme en deux classes toutes les vertus chrétiennes, les passives et les actives selon leur expression. Donc là on reprend les grandes doctrines de l'encyclique de Léon XIII, Testem Benevolentiae, contre l'américanisme. Donc, si vous voulez, qu'est-ce qui se passe? C'est que, ça c'est indispensable pour comprendre ce qu'est le catholicisme libéral. Le catholicisme libéral est un amoureux des vertus dites actives et un contempteur des vertus dites passives. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une vertu active? Une vertu active, c'est toutes les vertus qui permettent l'action apostolique. Une espèce de zèle pour l'action. Les vertus passives, au contraire, sont basées sur l'humilité. Donc le catholicisme libéral a en horreur la vertu d'humilité. Donc, saint Thomas d'Aquin, au contraire, explique que la vertu implique une perfection de la puissance. Or, la fin de la puissance est l'acte, et l'acte de vertu n'est autre chose que le bon usage de notre libre arbitre. Donc, c'est une vertu surnaturelle pour nous aider à monter vers le ciel. Donc, il n'y a pas de vertu active sans d'abord de vertu passive. Si on ne commence pas par faire les fondations de la maison, comment voulez-vous penser à la couleur dont vous allez peindre la cheminée? Donc, on va voir se développer avec ces fausses idées un peu partout dans les idées du catholicisme libéral, trois tendances, si vous voulez. D'abord, une tendance à dédoubler la personne du prêtre. Ces tendances vont surtout se voir dans les congrès sacerdotaux qui vont se multiplier à l'époque, au début du XXe siècle, malgré les condamnations de Saint-Pédis. Tendance à dédoubler la personne du prêtre. Le prêtre ici, simple citoyen là-bas, prêtre aujourd'hui, laïc demain. Donc l'abbé Lemire, qui était un de ces prêtres modernistes, a voté non, par exemple, sur une proposition de placer l'image du Sacré-Cœur sous le drapeau. Il était député, il a dit non. Deuxième tendance, une volonté manifeste chez les uns, voilée chez les autres, de substituer au gouvernement des églises par les évêques un gouvernement mixte et modelé sur le parlementarisme. Enfin, troisième tendance, adoucir les faits de la doctrine catholique que les générations modernes ne se prêtent point à accepter. Donc, alors qu'au contraire, si nous suivons saint Thomas d'Aquin, le prince des intellectualistes, il définit la foi comme l'assentiment de l'intelligence à la vérité divine sur le commandement de la volonté mue par la grâce. La grâce doit être partout. Bon, pour terminer ces explications et ce résumé un peu rapide que j'ai donné du tome 3 de l'œuvre de l'abbé Barbier, l'histoire du catholicisme libéral, je voudrais vous citer une autre lettre que j'ai écrite aussi il y a longtemps, mais qui, je pense, résume bien tout ce que je viens d'essayer de vous expliquer. Donc, voilà ce que j'écrivais il y a déjà plusieurs années, mais je ne change rien du tout à la doctrine, j'utilise toujours les mêmes arguments. Donc, je vous relis ce texte ancien que j'ai écrit il y a plus de 10 ans, c'est pas plus de 24, plus de 15 ans, mais qui résume bien tout ce que je viens de vous dire. Voilà ce que je disais. Nombreux sont nos fidèles qui, écœurés par l'état de décomposition avancée de notre société française, souhaitent se lancer dans la politique. Et ces fidèles nous reprochent, surtout ces jeunes, nous reprochent amèrement notre passivité dans ce domaine et voudraient se lancer à corps perdu dans l'action politique pour la plus grande gloire du Christ roi, bien entendu. Il est évident qu'il y a un créneau pour les laïcs dans ce domaine. Mais il ne faudrait pas oublier pour autant que les plus belles actions sont les actions surnaturelles. Se confesser régulièrement, aller à la messe le dimanche, parfois en semaine quand on peut, prier son chapelet, pousser le prochain à se confesser et le remettre ainsi sur le chemin de la pratique religieuse, placer ses enfants dans une bonne école de tradition. Tout cela, toutes ces choses sont des actions autrement plus réelles et utiles que d'essayer de faire de la politique dans un milieu gangréné par le libéralisme en se mettant ainsi plus ou moins à la remorque des principes républicains laïcs, démocratiques et révolutionnaires qui ont déjà placé notre pays dans sa tombe. Il faut comprendre qu'il existe une incompatibilité radicale entre la société libérale et la société de Jésus-Christ. C'est Louis Veuillot. Monseigneur Lefebvre nous mettait déjà en garde contre cette tentative de mariage adultère entre les principes catholiques et les idées de 1789. Une union adultère, disait-il, ne peut donner que des enfants bâtards. Nous ne pouvons être à la fois régénérés dans les eaux du baptême de Clovis en 496 et nager dans les eaux de la Révolution. Le problème, si vous voulez, c'est le suivant, c'est que beaucoup, surtout de nos jeunes dans les milieux de la tradition, veulent à la fois tenir d'une main les principes de la France catholique de 496, donc le baptême de la France en 496 à Reims, et en même temps suivre les principes de liberté, d'égalité, de fraternité de la Révolution de 1789. Donc Louis Veuillot écrivait la chose suivante. Ceci, ce sont les citations de son livre L'illusion libérale, qui est remarquable, que je vous conseille beaucoup de lire pour ceux qui ne l'ont pas lu. Voilà ce que disait Louis Veuillot. Deux puissances vivent et sont en lutte dans le monde moderne. La révélation ou la révolution qui veut ôter la croix à la couronne et la couronne à la croix. Nos catholiques libéraux sentent le danger de la doctrine de 1789, de là ces distinctions par lesquelles ils s'efforcent d'en détourner la conséquence pratique et de composer un 1789 particulier qui les fasse suffisamment révolutionnaires et qui les laisse pourtant catholiques. Mais l'entreprise est de concilier le mal et le bien, elle dépasse donc les forces humaines. Il est temps de dénoncer le point où la foi catholique libérale devra cesser ou d'être libérale ou d'être catholique. Un texte qu'il faudrait lire à genoux. À quel point Louis Veuillot a raison, mes bien chers frères. Le grand danger, surtout pour nos jeunes qui ne sont pas formés, c'est de vouloir plaire à tout le monde. Donc on veut bien être catholique, à condition de pouvoir encore avoir une petite place au soleil du monde. Mais ce n'est pas l'enseignement catholique. Notre Seigneur Jésus-Christ, étant le créateur de la société politique, en est aussi le roi. Ainsi, dans la vie publique, comme dans la vie privée, il n'y a qu'un moyen d'échapper au règne du diable, c'est de se soumettre au règne de Dieu. La domination universelle du Christ réalisera seule l'universelle fraternité. Les âmes sont malades et d'une terrible maladie. La fatigue est la terreur de la vérité. Cette maladie se manifeste par une absence d'horreur pour l'hérésie, par une continuelle complaisance envers l'erreur, par un certain goût des pièges qu'elle tend, souvent par une honteuse ardeur à s'y laisser prendre. Si notre Seigneur Jésus-Christ est roi de la société, il est évident que l'Église aura son mot à dire en matière de politique. Elle condamne donc avec force le communisme, le capitalisme libéral, le divorce, l'école sans Dieu, l'avortement, toutes choses qui sont réglées par les politiciens. L'Église aura donc un droit de contrôle en matière politique. Donc voici l'enseignement dogmatique donné par le pape Boniface VIII dans son encyclique magistrale Unam Sanctam en 1302. Toujours aussi actuel. Il n'y a qu'une Église catholique, en dehors de laquelle il n'y a ni salut, ni rémission des péchés. Cette Église a un corps et une tête, non deux, comme les monstres. Le Christ a tout confié au successeur de Saint-Pierre, tout sans exception. Il y a deux glaives sous le contrôle de l'Église, le spirituel et le temporel. Le premier est brandi par l'Église, donc le glaive spirituel, le second par la main du prêtre. Donc le premier est brandi par l'Église, excusez-moi, le glaive spirituel par la main du prêtre, le second est brandi pour l'Église par la main des rois et des soldats selon le vœu et la permission des prêtres. Il est donc convenable que l'autorité temporelle soit soumise à l'autorité spirituelle. Le pouvoir spirituel est autant supérieur en dignité et en noblesse à tout pouvoir temporel que les choses spirituelles le sont par rapport aux choses matérielles. Le pouvoir spirituel peut donc établir et, si nécessaire, juger le pouvoir temporel. Donc on ne peut pas envisager une formation politique sans l'influence de l'Église. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ a quelque chose à dire en matière politique puisqu'il est chef de la société, puisque c'est lui qui l'a, la société humaine, puisque c'est lui qui l'a fondée. Donc bien que le pouvoir temporel soit indépendant dans son domaine propre, par exemple, l'Église n'a rien à dire pour décider si vous faire passer une nouvelle autoroute à tel ou tel endroit, ou construire un pont en tel ou tel endroit au-dessus de la rivière, il n'en demeure pas moins que le pouvoir spirituel aura souvent son mot à dire. Car ce pouvoir spirituel, analogiquement parlant, est au temporel ce que l'âme est à l'Église. L'Église sera donc l'âme qui doit animer le corps politique et dans bien des cas, si c'est nécessaire, le corriger. L'Église et l'État sont certes tous les deux des sociétés parfaites, c'est-à-dire capables par elles-mêmes d'atteindre leurs fins propres. Donc l'Église est une société parfaite, l'État est une société parfaite. L'Église est une société parfaite dans son élément, l'État est une autre société parfaite également dans son élément, dans le sens que chacune de ces deux sociétés sont capables d'atteindre leurs fins propres. Fin surnaturelle pour l'Église, fin naturelle pour l'État. Cependant, société parfaite ne veut pas dire société indépendante. L'Église et l'État, tout en étant toutes les deux des sociétés parfaites, doivent avoir des liens. Donc la société parfaite de l'État est au corps ce que la société parfaite de l'Église est à l'âme. Il faut un lien entre l'âme et le corps, sinon on obtient un cadavre. Donc, il faut toujours souhaiter l'union de l'Église et de l'État. Il est nécessaire dans les temps troublés que nous vivons de rappeler ces principes élémentaires à nos fidèles qui veulent se lancer dans la politique. La société, la civilisation sera chrétienne ou ne sera pas. Alors, il y a deux dangers à éviter. Dans l'action politique, deux dangers principaux sont à éviter car les tentations sous apparence de bien sont nombreuses et la bonne volonté ne suffit pas. Premier danger, c'est le surnaturalisme, qui consiste à espérer que Dieu fera tout le travail pratique. Ainsi, certains voudraient ne faire qu'une seule chose, prier, faire pénitence, mais refusent de faire quoi que ce soit dans la pratique. Certes, prière et pénitence sont les fondations nécessaires pour construire toute œuvre durable voulue par Dieu, mais l'adage reste vrai, aide-toi et le ciel t'aidera. Il faut donc aussi agir en suivant la trilogie célèbre, prière, étude, action. Et non pas, comme le disent les modernistes, voir, entendre, juger. Non, c'est prière, étude, action. Attention, gardons bien l'ordre. La prière d'abord, puis l'étude pour compléter la prière, et l'action comme fruit de la prière et de l'étude. Deuxième danger, le naturalisme. Donc, premier danger, le surnaturalisme. Trop surnaturaliser les choses. Deuxièmement, naturaliser, désurnaturaliser les choses. Le naturalisme, cette fois, c'est l'homme qui veut faire tout par lui-même. Il considère que la prière et la pénitence ne sont que des pertes de temps, c'est actif et mûr pour tous les excès, tombera dans l'activisme et le volontarisme. Alors, quelle est la différence entre l'activisme et le volontarisme? J'ai déjà expliqué, donc je reviens vite. L'activiste prétend remplacer la prière par l'action. Le volontariste prétend obtenir ce qu'il veut obtenir à la force du poignet, sans l'aide de Dieu. Une petite nuance. Alors, nos politiciens en herbe devraient méditer au livre des Juges, chapitre 7, qui relate la victoire de Gédéon sur l'armée des Madianites. Ces derniers dévastaient régulièrement les terres des Hébreux et ne laissaient aucune subsistance en Israël. Ni brebis, ni bœuf, ni âne. Ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes et devenaient nombreux comme des nuées de sauterelles. Eux et leurs chameaux étaient innombrables et ils venaient dans le pays pour le dévaster. Bon. Gédéon, un des juges, décida de passer à l'action contre les Madianites avec une armée de 32 000 hommes. Mais Dieu avait d'autres idées en vue. Et lui dit, « Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains, de peur qu'Israël n'en tire gloire contre moi en disant, « C'est ma main qui m'a délivré. » Que celui qui a peur et qui tremble s'en retourne. 22 000 hommes s'en retiraient, il n'en resta que 10 000. Donc Gédéon commence à voir son armée se réduire comme une peau de chagrin. Ils sont déjà devant des centaines de milliers d'hommes, ils ont peur. Et voilà que le bon Dieu commence à faire une coupe sombre dans les soldats catholiques et élimine déjà 22 000 hommes, il n'en reste plus que 10 000. Ça ne suffit pas. Dieu dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-le descendre près de l'eau du fleuve. Et là, je t'en ferai un triage. Et Dieu tria si bien qu'il n'en resta que 300. Et Dieu leur dit, c'est avec ces 300 hommes qui n'ont pas plié les genoux que je vous sauverai, que je livrerai Madian entre tes mains. Et la victoire de Gédéon sera complète. Avec 300 hommes, il va détruire le pouvoir des Madianites. La victoire de Gédéon sera complète. Il a prié, fait pénitence, et Dieu a remporté la victoire en l'utilisant comme un vaillant instrument. Alors, il est intéressant de voir l'explication qu'en donnent les pères de l'Église. Gédéon, disent-ils, est la figure du sauveur, tandis que le Madianite représente le démon et ses suppôts qui oppriment le véritable Israël, c'est-à-dire ceux que le baptême a fait enfant de Dieu. Le nombre de 300, les 300 qui restent avec Gédéon, ce nombre de 300 s'exprime en grec par la lettre Tau, T-A-U, qui est en même temps la figure de la croix. Les 300 hommes qui suivirent Gédéon personnifient ceux dont il est dit dans l'Évangile, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il se renonce, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Le Christ ne prend avec lui pour mener son combat que les cœurs généreux qui acceptent de porter les croix. Pour les connaître, il est conduit au bord du fleuve, c'est-à-dire aux eaux de la divine sagesse. Ceux qui plient les genoux dans l'armée de Gédéon sont ceux qui se relâchent dans la conduite et la pratique des bonnes œuvres. Voilà l'interprétation d'Origène qui explique ce que nous devons maintenant faire pour imiter les soldats de Gédéon. Il nous faut briser nos peaux de terre en détruisant l'orgueil de la chair, réduisant notre corps par la mortification. Car tant que nous faisons de notre corps une idole, il ne voit la lumière. Il nous faut aussi faire briller notre lampe en pratiquant les bonnes œuvres, selon cette parole de l'Évangile. Qu'ainsi brille votre lumière devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Il faut enfin sonner de la trompette, c'est-à-dire prêcher hardiment l'Évangile et chanter la gloire de Dieu. Et avec ces trois armes, nous vaincrons tous les ennemis, même s'ils sont aussi nombreux qu'une armée de sauterelles. On peut aussi utiliser un deuxième exemple, après l'exemple de l'armée de Gédéon, l'exemple bien plus connu de Sainte Jeanne d'Arc. Dieu utilisera de la même façon notre héroïne nationale. Il commencera par la former en lui envoyant Saint-Michel, Sainte-Marguerite, Sainte-Catherine, qui vont apprendre à Sainte Jeanne d'Arc à prier, faisant d'elle une âme de raison. Elle passera des heures à méditer en gardant ses troupeaux. Arrivée devant les murailles d'Orléans, elle exigera que tous les soldats de l'armée française se confessent et communient. Alors, et alors seulement, elle bataillera avec les gendarmes pour obtenir la victoire militaire. Elle avait compris qu'on ne combat pas pour le règne de notre Seigneur Jésus-Christ sans que les soldats de Jésus-Christ soient d'abord en état de grâce. Sache principe que les leaders de certains de nos partis politiques français feraient bien de méditer de mettre en pratique. On ne peut prétendre d'un côté se battre au service de Jésus-Christ, du Christ-Roi, quand de l'autre on vit avec le démon par le péché mortel. Cela explique bien les déboires politiques, car Dieu n'a pas reconnu les siens chez ses soldats qui vivent dans la pratique comme s'ils n'existaient pas. Donc, pour être clair, utilisons une citation, ou quelques citations. La première d'Anastello, la deuxième de Mgr Henri de Lassus, deux grands antilibéraux du début du XXe siècle. Puissions-nous méditer ces fortes paroles et surtout les mettre en pratique, car les mêmes causes provoquent toujours les mêmes effets. Quiconque aime la vérité déteste l'erreur. C'est la citation d'Ernest Hello. Cette détestation de l'erreur est la pierre de touche à laquelle se reconnaît l'amour de la vérité. Si vous n'aimez pas la vérité, vous pouvez jusqu'à un certain point dire que vous l'aimez et même le faire croire. Mais soyez sûr qu'en ce cas, vous manquerez d'horreur pour ce qui est faux, et à ce signe, on reconnaîtra que vous n'aimez pas la vérité. Quand un homme qui aimait la vérité cesse de l'aimer, il ne commence pas par déclarer sa défection, il commence par moins détester l'erreur. C'est par là qu'il se trahit. Les complaisances secrètes forment une des parties les plus ignorées de l'histoire du monde. Quand un homme perd l'amour de la doctrine, bonne ou mauvaise, qu'il professait, il garde ordinairement le symbole de cette doctrine. Seulement, il sent mourir en lui toute aversion pour les doctrines contraires à celle-là. Dans cette citation d'Ernest Hello vient de son livre « L'homme ». La deuxième citation vient de Mgr de Lassus dans son livre « Vérité sociale et erreur démocratique ». Voilà ce qu'il disait. « Quand un homme qui aimait la vérité cesse de l'aimer, beaucoup ont mis leur espoir de salut dans la lutte électorale, c'est-à-dire dans la souveraineté du peuple en exercice. Que de temps, que d'argent, que d'activité a fait dépenser cette illusion. La dixième partie de tout cela employé depuis 20 ans à réformer les idées eût sauvé le pays depuis 10 ans. L'effort déployé pour faire élire des candidats met toujours l'idée au second plan s'il ne l'étouffe entièrement et prépare ainsi pour l'avenir des défaites de plus en plus écrasantes. Ce qu'il faudrait, ce serait d'arracher les hommes influents à l'action électorale pour les lancer dans la propagande de la vérité. Mais là est la difficulté. Il est aisé de grouper et d'intéresser les masses conservatrices à une action concrète et simple comme le vote. Mais il faut dépenser beaucoup de talent, de courage et de persévérance pour arriver à faire comprendre à ces mêmes masses qu'elles sont dans l'erreur et pour leur montrer et leur faire admettre les principes de l'ordre social en délivrant leur esprit des principes démocratiques. Vous voyez à quel point, mes bien chers frères, ces gens-là avaient raison. Et pourtant, ces textes ont été écrits il y a plus d'un siècle. Vous voyez ? Malheureusement, les erreurs sont toujours les mêmes. Donc, les moyens de lutte contre les erreurs sont toujours les mêmes. Je vous rappelle cette citation de Saint Pédis, que j'ai déjà dû citer, je crois. Il en est en grand nombre, nous ne l'ignorons pas, qui, poussés par l'amour de la paix, s'associent et se groupent pour former ce qu'ils appellent le parti de l'ordre. De partis d'ordre capables de rétablir la tranquillité au milieu de la perturbation des choses, il n'y en a qu'un, c'est le parti de Dieu, c'est donc celui-là qu'il faut promouvoir. Donc promouvoir le parti de Dieu. En face de ce parti de Dieu, Les socialistes, les ennemis de l'Église, veulent proposer à l'ouvrier catholique, privé de l'espoir d'un paradis céleste, un paradis purement terrestre. Et c'est les retraites, les congés payés, etc. Les sacro-saints congés payés ont malheureusement éloigné dans la pratique les catholiques de la pratique religieuse. Les gens se sont précipités au moment d'arrivée des congés payés sur les plages de la Côte d'Azur et ont commencé à perdre leurs âmes. Rappelez-vous, j'ai déjà cité ces citations, donc je n'y reviens pas, mais je voudrais quand même les reciter parce que le reste nous aide à garder l'esprit sur le vif du sujet. Un texte de Jaurès, Jean Jaurès, un grand ennemi de l'Église. Nos adversaires nous ont-ils répondu? Ont-ils opposé doctrine à doctrine, idéal à idéal? Ont-ils eu le courage de dresser contre la pensée de la Révolution l'interpensée catholique qui revendique pour le Dieu de la civilisation chrétienne, le droit non seulement d'inspirer et de guider la société spirituelle, mais de façonner la société civile? Non. Ils se sont dérobés, ils ont chicané sur des détails d'organisation, ils n'ont pas affirmé nettement le principe même qui est comme l'âme de l'Église. Je voudrais aussi rajouter une dernière citation de Louis Veuillot. Voilà ce qu'il disait. Pour ceux qui s'opposent, si vous voulez, à la création d'un véritable parti catholique et qui ne veulent pas mêler la religion à la politique, Louis Veuillot les avertissait ainsi. « Nous périssons, disait-il, peut-être plus de vérités que les bons n'ont pas le courage de dire que des erreurs que les méchants ont su sans mesure multiplier. Ce n'est pas la religion que vous leur rendrez aimable, ce sont vos personnes. Et la peur de cesser d'être aimable finit par vous ôter le courage d'être vrai. Ils vous louent, mais de quoi? De vos silences et de vos reniements. » Encore une fois, je m'excuse si je répète certaines citations, mais l'important c'est que ça rentre dans nos cervelles. Et donc je vais terminer, cette fois-ci je vous promets que je termine avec ça, par une dernière citation que j'ai peut-être déjà citée, mais je la retrouve ici dans les textes de l'abbé Barbier, donc je la reprends. Une citation de l'abbé Barbier. Donc il est évident que Saint Pédis parlait de la théorie du moindre bien, et non pas, commençait plus à le dire, de la théorie du moindre mal. C'est-à-dire à savoir qu'entre deux mots, il faut choisir le moindre. Rien, donc, de commun entre ce moindre bien dont il faut savoir se contenter en cas de nécessité en acceptant un candidat moins bon qu'on l'aurait souhaité, mais favorable à la religion, et ce principe du moindre mal par lequel les catholiques libéraux français prétendaient justifier leur compromission avec les adversaires de l'Église et des concessions que la conscience à l'envie de l'honneur devait leur faire repousser. Que d'actes intrinsèquement mauvais deviendraient légitimes par cette théorie du moindre mal? Entre deux pommes pourries, il n'y a pas le choix. Pour le libéral, le moins mauvais devient le bon. Il y a une différence de degré, mais non de nature. Donc attachons-nous, mes bien chers frères, à la foi catholique. On ne peut pas se sauver sans la foi catholique. Et c'est précisément parce que les catholiques ont fini par accepter petit à petit tous les principes de la révolution, qu'on est devenu tellement faible et qu'on a laissé les ennemis de l'Église pénétrer partout à l'intérieur même de l'Église catholique. Nous allons terminer par une prière. Donc je me rends compte que, encore une fois de plus, le magnétophone m'a joué des tours. Et que la conférence qui devait être sur une seule piste est passée sur deux pistes. Donc je mettrai les deux conférences, l'une à la suite de l'autre, sur le site internet. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.